Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Je ne vous apprends rien, la démocratie et la liberté de la presse sont menacées. Et oui, le quatrième pouvoir est de plus en plus sous l'emprise de quelques milliardaires aux idées nauséabondes et qui menacent l'exercice même de la presse et son rôle de contre-pouvoir. Dans cette nouvelle émission, Quatrième Murmure, on casse donc le mur de ce quatrième pouvoir pour donner de la voix aux médias indépendants et pour esquisser un paysage de la presse libre, bien loin de toute pression financière et politique. Aujourd'hui, c'est le média en ligne Basta qui nous parlera de son rôle dans le paysage médiatique, comment il permet de mettre en avant la presse indépendante, en France et à l'étranger, et on accueillera des journalistes de la rédaction, Emma Bougerolles et Yvan Duroy. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et on abordera d'ailleurs avec vous une enquête marquante publiée dans Basta, qui n'est possible que grâce à la presse indépendante. Chers auditeurices, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et puis à chaque épisode, on ira faire un tour en région, aujourd'hui avec le média en ligne normand Grand Format. Restez avec nous, on est ensemble pendant une heure sur Radio Campus Paris. Ça s'appelle Quatrième Murmure, et c'est votre nouvelle émission consacrée à la presse indépendante.
Quatrième Murmure, sur Radio Campus Paris.
Et oui, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous écoutez Quatrième Murmure, l'émission qui donne la parole aux médias indépendants. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avec nos invités du média Basta, Chiara, toi, tu as fait un tour des médias indépendants ces derniers mois et tu nous as concocté une petite revue de presse.
T'as pas lu les journaux ?
Moi, comme je suis au courant de rien, excusez-moi, mais...
Tout à fait. Alors, on a le plaisir d'accueillir Basta aujourd'hui. Et vu qu'on va en parler beaucoup, je me suis dit que j'allais plutôt parler d'articles d'autres revues très intéressantes de ces derniers mois. Et donc, je suis très heureuse de réaliser cette première revue de presse de notre nouvelle émission Quatrième Murmure. Donc, soutenir la presse écrite, on l'a dit, c'est important parce que ces revues, elles permettent d'aborder et d'approfondir des sujets éloignés aussi parfois des carrefours d'audience, mais qui sont pourtant essentiels à la compréhension du monde dans lequel on vit. Et en plus, ces revues, personnellement, je les aime beaucoup parce qu'elles sont aussi souvent très belles et colorées, et ça, le fond plus la forme, c'est tout ce qu'on aime. Donc, par exemple, moi, récemment, j'ai pu lire La Déferlante, donc aka la revue des révolutions féministes, et c'est l'une de mes revues préférées. Ce trimestriel, il analyse les enjeux autour du genre, du féminisme et des questions LGBTQIA+, à travers différentes thématiques. Dans leur avant-dernier numéro, paru en mai 2025, l'attention est portée plutôt sur l'éducation, et plus précisément encore sur l'éducation émancipatrice. À travers différents articles, on découvre des alternatives et résistances mises en place pour une éducation plus inclusive. Et ça fait du bien de lire des articles qui mettent en avant des moyens concrets pour que chacun et chacune se sente mieux dans leur éducation et dans la société de façon plus générale. C'est dur de vous conseiller un article en particulier parce que le dossier entier est super, notamment l'interview de Bell Hooks, autrice racisée née aux États-Unis lors de la ségrégation, qui rappelle d'ailleurs que la salle de classe reste le lieu le plus radical des possibilités. Le premier article du dossier, page 55, que je vous conseille particulièrement, s'appelle « Éduquez vos fils », entre guillemets, et il est écrit par Sarah Bernichoux, l'autrice, qui exprime à quel point il est important d'éduquer les hommes dès le plus jeune âge à respecter les femmes, mais montre également la culpabilisation que les mères subissent par rapport à l'éducation de leurs fils. Elle aborde aussi cette idée qui revient souvent selon laquelle il ne faut pas apprendre aux filles à se protéger, mais aux garçons de s'éduquer. Elle précise que oui, il faut éduquer les jeunes garçons, mais que c'est un processus long et que d'ici là, il est urgent d'apprendre aux filles à se défendre. Cet article permet vraiment d'aborder le sujet de l'éducation au féminisme à travers des points de vue parfois très divergents. Dans cet article, il y a une situation que je trouve pertinente et très touchante de Gloria Steinem, une éditorialiste féministe américaine. Elle dit « Je suis heureuse que nous ayons commencé à élever nos filles davantage comme nos fils, mais cela ne suffira pas si nous n'élevons pas davantage nos fils comme nos filles ». Pour continuer, j'aimerais vous parler d'un autre trimestriel intitulé « Fracas, le média des combats écologiques ». Praka a sorti son 4e numéro fin juin dernier, et il y a un article que j'ai particulièrement aimé, nommé « Le beauf est un mauvais pauvre ». Il s'agit de l'interview de Rose Lamy, dont les propos ont été recueillis par Philippe Vianduri. Rose Lamy, c'est une militante et essayiste féministe plus connue sur les réseaux sous le nom de « Préparez-vous pour la bagarre ». Elle a sorti un ouvrage nommé « Ascendant beauf » qui analyse la figure du beauf et tous les sous-entendus associés à ce personnage. Au programme, analyse de la domination culturelle, stigmatisation des pauvres, etc. C'est un sujet étonnant et pourtant associé à plein de thématiques très intéressantes et importantes. Pour terminer, je voulais vous parler d'un article en ligne cette fois-ci, et plus précisément d'une série d'enquêtes disponibles sur le site internet de Politis. Dans ces articles, Pauline Mijouan suit le projet d'AFO, Action des Forces Opérationnelles, une organisation terroriste d'extrême droite soupçonnée d'avoir préparé des attentats anti-musulmans lors de leurs arrestations en 2018. Jugée entre juin et juillet dernier pour association de malfaiteurs terroristes, elle révèle qu'un militant fortement impliqué dans le mouvement a eu le soutien du Rassemblement National lors des municipales en 2020. Ce sujet est complètement passé sous les radars de l'actualité politique des grands médias, alors que cela témoigne encore une fois d'un parti d'extrême droite toujours mêlé à des affaires plus que douteuses. Donc voilà, c'était ma revue de presse pour ce premier épisode de 4e Murmure. Et donc je vous conseille d'aller voir le site internet de Politis et les revues Fracas et La Déferlante. Promis, vous ne serez pas déçus.
Eh bien, merci Chiara pour cette petite revue de presse. Effectivement, c'est vrai que la presse indépendante, on peut aussi l'amener en vacances, qu'elle soit print ou pas d'ailleurs. Comme vous le savez, chers auditeurices, 4e Murmure s'intéresse aux médias indépendants, à leurs enjeux et surtout à l'importance de les soutenir. Alors avant ce premier épisode, je suis allé à la soirée des lauréats du Fonds pour la presse libre, c'est le FPL, qui aide des médias indépendants à se lancer ou à mener des projets éditoriaux. Son but, c'est de défendre le pluralisme de la presse, la liberté de l'information et l'indépendance du journalisme. À cette soirée, j'ai donc rencontré Charlotte Clavreul, la directrice exécutive du FPL, et elle nous explique pourquoi c'est important de soutenir la presse indépendante.
Bonjour, je suis Charlotte Clavreul, la directrice exécutive du Fonds pour une presse libre. Depuis 5 ans, on a reçu plus de 300 candidatures. On a soutenu plus de 40 médias indépendants, que ce soit des médias locaux, des médias nationaux, des médias qui couvrent l'actualité internationale, qui font du papier ou les médias en ligne. On en a soutenu donc une quarantaine à hauteur de 1 million d'euros là en 5 ans. Et ça, c'est grâce à plusieurs milliers de donateurs et de donatrices. Cette année, on en a eu plus de 6 000. Et c'est vraiment très important parce qu'on se rend compte avec ce phénomène de concentration de médias qui s'accélère et qui est de plus en plus prégnant, et aussi avec cette montée d'extrême droite qui a toujours considéré le journalisme comme un ennemi. On considère que l'extrême droite, si un jour elle arrive au pouvoir, la presse indépendante devient un contre-pouvoir. Et il faut soutenir ces médias indépendants parce qu'ils sont dans une situation économique très vulnérable. Ils ont des modèles économiques fragiles et nous, en les soutenant, en leur apportant soit des subventions, soit des avances remboursables, on les aide à construire et à renforcer leur modèle économique. Et les projets qu'on soutient permettent aussi de soutenir tout cet écosystème de la presse indépendante, puisque maintenant, depuis 2-3 ans, on voit cette volonté entre plusieurs médias indépendants de collaborer et de monter ensemble des projets qui vont profiter eux-mêmes à la presse indépendante en France.
Voilà, donc on l'a entendu, hein, Charlotte Clavreul qui nous parle de cette volonté entre les médias indépendants de monter ensemble des projets, de se visibiliser les uns les autres pour former ce contre-pouvoir. Alors ça tombe bien, aujourd'hui on reçoit donc le média Basta avec les journalistes Emma Bougerolles et Yvan Duroy. Rebonjour à tous les deux et bienvenue dans 4e Murmure.
Rebonjour.
Rebonjour.
Vous êtes donc tous les deux journalistes à la rédaction de Basta. Yvan, toi, tu es même cofondateur du média.
Absolument, oui.
Avant de parler donc du rôle de Basta dans le paysage de la presse indé, Basta, qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa ligne éditoriale ? Yvan, peut-être, puisque tu as cofondé le média ?
Alors, c'est un média qui se fonde en ligne fin 2008. À un moment, il faut peut-être un petit peu rappeler le contexte. Donc, à l'époque, l'écologie, on n'en parle pas beaucoup. C'est relégué dans des rubriques ou des pages bien précises dans les journaux. Et on en parle très peu à la télévision. Les questions sociales, c'est un peu pareil. On est dans la foulée de la crise financière de 2008. Et du coup, il y a beaucoup de mouvements sociaux contre le chômage qui apparaissent. Et il y a une critique du capitalisme financier qui émerge de plus en plus aussi. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on se crée, avec la volonté de mettre au centre notre ligne éditoriale à la fois les questions écologiques, le climat, etc., et les questions sociales, les mouvements sociaux, les conditions de travail. Donc c'est un peu, et puis de un peu se faire ce mélange qui va se faire plus tard entre ne pas opposer les questions écologiques aux questions sociales. Enfin, on a bien vu que les questions de justice étaient totalement mêlées. Et voilà, c'est dans cette optique que se crée Basta fin 2008.
Mmh. Écologie et société, donc. Tout ça, c'est disponible en ligne, c'est ça? C'est un média en ligne?
Alors, c'est un média en ligne, en accès libre, donc gratuit, sans publicité, qui ne vous traque pas et qui ne vous cookies pas. Et du coup, on a misé sur le fait de plutôt faire des formats plutôt longs, enfin des reportages, des enquêtes, plutôt que de l'actualité et de réagir au flux d'infos qui nous arrivent par plein de biais différents tous les jours. Donc voilà, on se concentre sur certaines thématiques, certains sujets, sur ces questions sociales, défense de la démocratie, liberté publique, lutte écologique, et faire parler avec. C'est quand même comme pilier de le fait de faire parler les premiers concernés, enfin aller voir les gens, les faire s'exprimer, que ce soit des gens dans leur travail, des gens qui s'engagent, qui se mettent en mouvement sur telle ou telle cause. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, quoi.
Donc plutôt du format long, pas de l'actu chaude spécifiquement, avec 5 à 6 articles par semaine.
C'est ça.
Et qui est en accès libre. Alors, la question qui se pose à chaque fois, c'est le modèle économique. Vous travaillez avec des dons, vous recevez des dons.
On vit principalement des dons. Yvan a dit en accès libre. Des fois, on essaie de rappeler aussi peut-être à prix libre, parce que on est financé en grande, grande partie par les dons de nos lecteurs, lectrices. Et c'est ce qui fait vivre le média. C'est la confiance des gens dans le média et la volonté de le faire vivre.
Et alors, depuis 2008, quelle a été l'évolution par rapport à ça? Est-ce que vous percevez davantage de réception de la part du public? L'audience apprécie ce modèle que vous proposez?
Alors oui, les dons ont beaucoup progressé par rapport au début, surtout qu'au début, on n'en avait quasiment pas. Donc c'était plutôt des petites aides, des petites subventions publiques ou de fondations qui ont permis de lancer le média à ce moment-là. Et puis avec une équipe très, très restreinte et qui s'appuyait beaucoup sur du bénévolat. Là, aujourd'hui, la progression des dons dans le modèle économique du média, alors ça se fait pas en un jour, hein, ça a pris plusieurs années. Ça demande quand même beaucoup de boulot, des campagnes de dons, faire comprendre justement cette idée de média à prix libre. Hein, c'est-à-dire, vous venez, vous lisez un article, vous appréciez, vous y revenez une semaine plus tard ou 15 jours plus tard, et de se dire, chacun paye en fonction de ses moyens, de ses besoins et de ses moyens, et avec des gros dons et des dons très modestes de gens qui disent qu'ils sont en RSA, qu'ils n'ont pas forcément les moyens de donner beaucoup, mais c'est ce geste qui compte, c'est super important. Et voilà, et donc aujourd'hui, on vit à 85% de notre budget sur les dons, sur les lecteurs qui nous soutiennent de cette manière-là. Donc et puis ça a permis de développer, d'embaucher des gens, de payer à peu près correctement de plus en plus de personnes, et de payer des pigistes, etc. Et voilà.
Oui, parce que vous êtes donc une dizaine de personnes à la rédaction, vous travaillez avec des pigistes, et parmi les auditeurices qui nous écoutent, si ils ou elles veulent donner un petit peu d'argent, c'est concrètement sur le site internet que ça se passe?
Oui, il y a un formulaire, il y a des capsules un peu partout pour soutenir la presse indépendante, sur un soutien Basta, où vous accédez à un formulaire de don. Et sachant qu'il y a possibilité de faire un don soit directement à Basta, mais qui n'est pas défiscalisé, et possibilité pour les gens qui payent des impôts de faire des dons qui seront défiscalisables ensuite.
Alors, il y a des rappels réguliers que vous diffusez par mail, vous participez à des campagnes pour rappeler aux personnes que c'est important de soutenir la presse indépendante, notamment Basta. Une autre chose qu'on reçoit par mail aussi, c'est la newsletter chez les Indés que vous avez lancée il y a quelques années. Peut-être, Emma, tu veux en dire un mot?
Tout à fait, ça fait partie aussi de notre travail quotidien. Alors, la newsletter chez les Indés, c'est une newsletter hebdomadaire, donc on l'envoie toutes les semaines. Et c'est une revue de presse des médias indépendants. C'est pas que Basta, on a une toute petite rubrique à la fin où on mentionne quand même un article de notre semaine.
Du côté de chez nous.
Du côté de chez nous, exactement. Et sinon, c'est le meilleur, en tout cas, ce que nous on a choisi, qui était pertinent et très intéressant, de la semaine, chez les médias indépendants francophones. Et je dis francophones parce qu'on a aussi une version internationale, qui s'appelle « Chez les Indés internationales », et qui est toutes les deux semaines, et là c'est le meilleur de la presse internationale, donc des sites, des magazines,
dans à peu près toutes les langues, je ne vais pas les lister.
Et vous rebondissez quand même sur l'actualité chaude. Il y a un dossier en début de newsletter où vous revenez sur ces médias indépendants qui réagissent à l'actualité.
Tout à fait. On a, alors, pour parler de chez les Indés, parce que les choix de catégories sont un peu différents selon les newsletters, mais ça correspond aussi au format et à la fréquence, en fait. Par exemple, dans la newsletter chez les Indés, on va sélectionner une enquête, un entretien, etc. Mais c'est vrai qu'on va avoir cette espèce de début de newsletter qui va revenir sur un événement. Alors, soit un événement d'actualité, soit parfois quelque chose d'un tout petit peu plus froid, mais en fait, qui a été partagé par plusieurs médias indépendants. Et on va vous faire ce travail-là de revue de presse, de dire qu'est-ce qu'on dit, Mediapart, Vert, Reporter, grand format.
Bah ça, oui. Plus pour compléter, ça permet de suivre quand même les grands moments d'actualité via les médias indépendants et autrement que sur les réseaux sociaux ou sur BFM TV. Et ça permet aussi pour certains articles de, enfin nous, ça nous importe beaucoup de faire un pas de côté, c'est-à-dire de signaler des reportages ou une enquête ou ce dont on parlait dans la revue de presse en début d'émission, des choses comme ça qui sont plus froides mais qui sont très intéressantes à lire et qui peuvent intéresser des gens qui sont abonnés à la newsletter.
Et c'est très lié à ce dont on va en parler, hein, tout à l'heure, le portail des médias libres. Mais avant ça, vous avez un rôle pour, dans le paysage médiatique en France, avec d'autres médias aussi, pour visibiliser tout ce qui peut exister en termes de médias indépendants. Et pour ça aussi, vous travaillez, vous collaborez avec, parfois, sur certaines enquêtes, certains reportages, avec d'autres médias. Est-ce qu'il y a certains reportages en collaboration dont vous avez envie de parler ou enquête, sans parler tout de suite de l'enquête dont on va parler tout à l'heure avec Yvan?
Peut-être avec Rapport de Force. On bosse pas mal avec eux, on a fait des enquêtes en commun, je pense que Yvan...
Oui, en fait, nous on travaille avec plusieurs médias, que ce soit pour des enquêtes ou des reportages communs, donc ce qui permet de partager ou mutualiser les frais d'enquête et de payer ensemble un ou une pigiste. Et aussi à plusieurs médias se mettre ensemble pour se coordonner, pour plutôt que de sortir à trois ou quatre la même interview ou le même sujet sur telle enquête ou sur l'extrême droite ou sur telle multinationale, d'essayer de se coordonner pour que voilà, les angles soient un peu différents et que chacun soit complémentaire. Donc c'est vers ça qu'on tend, pour un peu faire écho à ce que disait Charlotte Claverolle dans votre entretien. Je pense qu'il y a ce qui a changé aussi par rapport à quand on s'est créé Basta fin 2008, c'est que ce qu'on appelle l'écosystème des médias indépendants s'est considérablement enrichi. On était une poignée de titres à l'époque, aujourd'hui il y en a des dizaines, des médias nationaux, thématiques, locaux, des revues, etc., avec plus ou moins de moyens, qui ont plus ou moins avancé dans leur audience. Et voilà, et donc là, l'enjeu aujourd'hui par rapport à... On parlait de menaces sur la démocratie, de montée de l'extrême droite, de concentration de la presse plus traditionnelle aux mains de quelques grandes fortunes. Face à cet enjeu-là, les médias indépendants n'ont pas d'autre choix que de bosser ensemble et de se coordonner. Après, d'arriver à faire des trucs ensemble ou pas, mais au moins de se parler quoi, régulièrement.
Oui, c'est ça qui est intéressant. On l'a entendu tout à l'heure, les médias indépendants ont un modèle économique précaire. C'est compliqué parfois de recevoir des dons et de vivre, tout simplement. Et pour autant, vous n'entrez pas dans un système de compétition les uns les autres. Vous collaborez ensemble parce que c'est ce qui fonctionne mieux, quoi.
Bah, c'est pas évident, mais si c'est pour reproduire la compétition néolibérale et capitaliste à notre niveau, c'est pas la peine, quoi. Donc l'idée, c'est de, même si c'est compliqué, même si quand je lance ma campagne de dons de mon côté et que mon voisin lance la sienne, est-ce qu'on va pas se marcher sur les pieds, etc. Donc il faut essayer d'être un peu plus intelligent que ça et de bosser ensemble et puis que chacun y trouve son compte et d'être dans des discussions de respect réciproque et de pas être je suis le gros qui va bouffer les autres et voilà. Et pour l'instant, globalement, chacun tente, joue cette carte-là, y compris le plus gros Mediapart, qui est à l'origine de la création du FPL, hein, c'est quand même à leur honneur. Donc, après, il y a toujours des rédactions qui vont plus ou moins jouer le jeu, mais globalement, on arrive à se parler, quoi.
Eh bien, merci. Restez avec nous. On revient juste après une toute petite pause musicale. À tout de suite.
On a un tout jeune homme... Une fille, vous allez voir, c'est Joël Lejeune. Bonsoir, Joël.
Bonsoir.
La chanson que tu fais, c'est une chanson folklorique, mais qui a une allure de folklore contemporain. C'est l'allure qu'on lui a donnée avec une chanson fort populaire actuellement. C'est quoi déjà la chanson?
M'en revenant de cette terre.
Bon, on va revenir de Sainte-Hélène, mais on retournera à Sainte-Hélène après ça. Oui.
Écoutez, j'ai vu le loup, le renard, le lièvre de Joël Legendre. C'était une reprise de Doji.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec nos invités du média en ligne Basta, Emma Bougerolles et Yvan Duroy. Alors toi Emma, t'es particulièrement impliquée chez Basta dans ce qui s'appelle le portail des médias libres. C'est un peu le Google Actu des médias indépendants, c'est ça ?
Tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est comme ça que j'allais le présenter.
Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Le Google Actu, en gros, on peut trouver des articles de
Le choix
sortes.
De Google Actu, c'est un peu provoque, parce qu'en vrai, on n'est pas Google Actu. Mais l'idée est là, dans le sens où c'est avoir une page où t'arrives et t'as les dernières informations. Nous, c'est des médias indépendants. Et la différence majeure avec Google Actu, c'est que c'est pas algorithmisé. En fait, la sélection des médias... On a une sélection du jour, par exemple, et elle se fait pas par un algorithme qui va essayer de voir comment pousser telle information, etc. En fait, on sait même pas vraiment ce que fait l'algorithme. Là, c'est des journalistes de Basta qui disent chaque jour, voilà les articles, comme dans la newsletter, ce que je disais plus tôt, voilà les articles que nous, on estime répondent à l'actualité, sont intéressants à lire, que vous lirez nulle part ailleurs, qui sont particulièrement bien racontés, bien écrits.
Mais ça doit prendre un temps fou alors, parce que sur le portail, il y a vraiment toute une flopée d'articles de plein de revues différentes. Comment vous vous y prenez concrètement ? Enfin, vous lisez tout ?
C'est un travail quotidien en fait. On est, disons qu'il y a à peu près deux personnes. Il y a une personne qui va s'occuper au quotidien de la sélection des médias indépendants francophones et du coup, une personne qui va s'occuper de la sélection des médias indépendants étrangers. Et c'est un travail de veille en fait. On a des flux RSS, on surveille. On va penser à l'actu, quels sont les sujets du jour. Nous aussi, on s'informe, hein, je veux dire, on est journaliste, donc on va penser à telle discussion à l'Assemblée nationale, tel événement international, des élections, je ne sais où. Et on va créer notre sélection en fonction de ça. Alors non, on ne lit pas tout, parce que sinon, on n'aurait pas le temps de même faire du journalisme à côté, enfin, autre chose. Disons qu'on garde un œil, on connaît les médias, on sait qu'ils proposent des contenus de qualité, et puis après on va aller voir, on va aller parcourir des articles pour créer cette sélection quotidienne.
Et alors Emma, depuis quand existe ce portail des médias libres ?
Le portail existe depuis 2015. Pour donner un petit peu de contexte, c'était après une énième percée électorale du RN, où, alors moi j'étais pas là, mais il y a eu l'idée de se dire il faut qu'on trouve un moyen pour visibiliser les médias indépendants progressistes. En fait, il faut qu'on fasse entendre ces voix-là qui ont du mal à être entendues. Et en fait, quand on parle d'une énième percée du RN, je veux dire, 10 ans après, c'est toujours aussi actuel, malheureusement.
Et alors, comment vous communiquez sur ce portail ? Parce que, est-ce que les gens y vont ? Est-ce que vous avez un retour sur les audiences de ce portail ?
Pour l'instant, ça reste des audiences assez restreinte, le portail, en fait, la page en tant que telle est un peu dans son jus, pour dire ça gentiment. Mais je pense qu'au moment où on va être écouté, on aura des perspectives intéressantes. En fait, on est en pleine refonte du portail, donc pour l'automne 2025, où pour rendre ce portail vraiment plus accessible, avec des contenus propres aussi, des contenus de revues de presse, des contenus de vie des médias indépendants, et une interface beaucoup plus belle, agréable et accessible.
Et pour cette refonte, donc, et peut-être même pour poursuivre ce travail de veille et de choix des articles, est-ce que vous envisagez d'augmenter le nombre de personnes pour travailler spécifiquement sur ce portail, ou est-ce que ce n'est pas prévu ?
Tout à fait. Tout à fait, il y a une personne qui rejoint Basta pour s'occuper de ça, parce que c'est énormément de travail, en fait, cette veille-là. Il faut faire ensuite les newsletters, il faut faire ses revues de presse, il faut parler avec les médias aussi, c'est intéressant. Nous, on a vraiment envie que le portail des médias indépendants, ce soit aussi un moyen de discuter avec d'autres médias, de faire des interviews de fondateurs, fondatrices, de journalistes, de relayer des choses. Enfin, aussi pour revenir sur la sélection, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il y a peut-être deux journalistes qui, disons, au quotidien s'en occupent. Mais en fait, on est une équipe. Même entre nous, on discute, on s'envoie les articles, on se dit « Regardez, vous avez vu telle vidéo, vous avez vu tel papier, il est super bien. » Je veux dire, c'est ça aussi la richesse d'une sélection qui n'est pas algorithmique.
Et je me demandais, est-ce que ça, dans le futur, c'est un objectif de potentiellement que ça soit plus collaboratif même avec d'autres médias, ou est-ce que du coup ce sera uniquement pour Basta, ou est-ce que par exemple, avec des projets futurs, l'objectif ce serait d'avoir des journalistes peut-être de différents médias qui peuvent faire encore plus de veille et encore plus partager ces ressources-là?
C'est totalement une idée, on en a parlé, hein. c'est pas un secret. En fait, Basta porte le projet parce que en fait il faut quelqu'un qui le porte, et même d'un point de vue quotidien, c'est au début, en tout cas c'est plus simple, mais à terme pourquoi pas en fait bosser avec d'autres médias, avoir une gouvernance partagée, avoir des instances de discussion, bien sûr, ouais.
Et alors toi, Emma, précisément, c'est quoi ton rôle dans ce portail ?
Moi, je suis plutôt côté international. En fait, tous les jours, je vais aller regarder ce que font les médias indépendants du monde entier. Et puis, toutes les deux semaines, je fais la newsletter. Enfin, je fais le plus souvent, mais on partage largement le travail, la newsletter internationale qui, du coup... Et assez longue, si jamais vous l'avez déjà reçue, et si vous la recevrez, elle sera longue, mais qui couvre beaucoup de sujets, de pays.
Et est-ce que vous avez des retours ? Vous parliez tout à l'heure des échanges possibles avec d'autres médias. Il y a déjà des retours, des retours sur ce portail de la part de ces médias ?
Tout à fait. En fait, dans ce projet de refonte, celui qui coordonne ce projet de refonte, Nicolas, il s'appelle Abasta, a été voir faire le tour de beaucoup de médias indépendants pour leur présenter ce projet, pour leur présenter ce à quoi ça allait ressembler, pour avoir leurs avis, leurs retours, etc. Et en général, les retours ont été très très positifs. Hein. C'est un projet qui plaît. Alors il y a des questions, des fois justement sur la gouvernance notamment, mais en général, c'est quand même... moi je trouve ça, parce que je ne l'ai pas créé, je peux dire, je trouve ça très altruiste comme projet.
Alors ça s'appelle donc le portail des médias libres, c'est disponible pour le moment sur portail.basta.media.
Ça le sera toujours, ouais.
Et ça le sera toujours sur ce... C'est quoi cette extension .media d'ailleurs ? C'est vous qui l'avez développée spécifiquement pour, comment ça fonctionne, pour déborder les algorithmes ? C'est quoi ce...
Non, c'était un nom de domaine qui était disponible à un moment donné, et on a un peu multiplié les basta point quelque chose, ouais. Dans le grand jeu de l'appropriation du nom de domaine par rapport à sa marque. Donc voilà, c'est pour ça. Et sachant que le portail, ce portail-là que vous allez découvrir là cet automne, il va être largement refondu, redesigné, avec des nouvelles fonctionnalités vachement plus modernes et jolies que la version ancienne, si tant est que vous la voyez encore en ce moment.
Voilà, donc ne loupez pas ça, c'est, je le rappelle, portail.basta.media. C'est déjà un peu disponible, mais ça le sera encore plus. Je me suis trompée, Emma ?
Non, pas de souci, je voulais juste lever le doigt pour dire que si jamais vous n'y avez pas accès, abonnez-vous au newsletter et vous aurez déjà le meilleur des médias indépendants en attendant.
Et oui, pour vous abonner, donc, c'est sur le site directement de Basta, sur internet, basta.media. Tout ça, de toute façon, on va le mettre sur le site de l'émission, sur radiocampusparis.org. On a parlé donc du portail des médias libres. L'intérêt aussi, c'est de lutter contre les GAFA, notamment, qui est une des menaces actuelles qui invisibilise les médias indépendants.
Oui, l'objectif du portail, comme on l'a dit, c'est déjà de rendre visibles davantage les médias indépendants, progressistes, qui font un travail rigoureux de qualité. Mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution des modes de consommation de l'information, donc globalement, de plus en plus de gens regardent via les réseaux sociaux ce qui leur arrive comme information. Sauf que là, ce n'est pas eux qui choisissent ce qui leur arrive comme information, c'est les algorithmes des réseaux sociaux qui vont estimer « Ah tiens, ça va leur plaire ou pas leur plaire », et donc qui va rendre visible ou invisibiliser tel contenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les sites d'information, que ce soit indépendant ou pas, y compris des grands groupes, des très grands médias, en ce moment, toutes les audiences sont en baisse parce que les algorithmes des GAFAM, du coup, de leur réseau, invisibilisent leur contenu. Et il y a une autre menace qui émerge. Enfin, on parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle en ce moment. Et aujourd'hui, en ce moment, Google est en train de mettre en place, de faire évoluer ses moteurs de recherche. Alors, parce qu'avant, vous tapiez une recherche, qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, à telle date, et puis Google vous proposait une liste d'articles à consulter, et vous faisiez votre marché là-dedans. Et aujourd'hui, c'est Google, l'IA de Google qui va répondre directement, en disant, ah, tiens, là, on te donne ta réponse. Et du coup, toutes les sources sur lesquelles s'appuie la réponse seront en partie invisibilisées. Donc le but du portail, c'est d'ouvrir que ce soit une fenêtre pour les gens, pour plutôt que d'aller, ah tiens, j'allais voir Reporter, j'allais voir Mediapart, j'allais voir La Déferlante, etc., etc., etc. Bah là, ils auront une page où il y a une sélection de tous ces médias-là et de ce qu'on a estimé intéressant. Puis après, ils vont aller lire les contenus chez les uns ou chez les autres. Mais voilà, ça va faciliter la vie de beaucoup de monde. Et le but, c'est que ça devienne une plateforme qui devienne aussi une référence pour aller s'informer autrement que par les GAFAM et leurs algorithmes.
Sur le portail, justement, on peut trouver des enquêtes. Il n'y a pas seulement des reportages. Et à Basta, justement, vous avez mis à jour une enquête récemment. Yvan Duroy, tu l'as menée avec le journaliste Ludovic Saint-Bille. Saint-Bille, sur les interventions policières létales, c'est bien ça?
Oui, c'est à partir d'une base de données qui recense toutes les interventions policières qui vont provoquer la mort. Et parce qu'on a lancé cette base de données il y a une dizaine d'années, parce qu'on a fait le constat qu'aucun chiffre n'existait en France là-dessus. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des suspects ou des gens dangereux qui pouvaient être tués par la police, des affaires qui étaient considérées comme des bavures, mais il n'y avait aucun chiffre ni public ni officieux tout ça sur savoir est-ce que il y avait dans le cadre des interventions de la police, des gendarmes, etc., 10, 20, 30, 50, 100 morts par an en interaction avec la police, quoi. Et donc ni dans le monde universitaire, ni dans le monde politique, ni au ministère de l'Intérieur. Sûrement au ministère de l'Intérieur, mais en tout cas pas public. Et donc on a décidé de on va faire le taf et de commencer à compiler, à faire des recherches pour constituer cette base de données donc, qui remonte jusque dans les années, la fin des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, pour où sont listés tous les cas de décès liés à une intervention policière. Après, là, à ce stade, je précise que nous, on prend tous les cas, quels que soient les circonstances, le contexte, et c'est pas à nous de dire si l'intervention, enfin l'usage de la force à ce moment-là est légitime ou pas. C'est les gens en découvrant le contexte, des journalistes, nous ou d'autres, en faisant des enquêtes sur telle ou telle affaire, de dire l'intervention de la police était légitime, ou à la justice quand il y a des plaintes ou des procès, l'intervention de la police le recours à la force était légitime, ou ne l'était pas, était arbitraire, illégal, ou ils auraient pas dû faire usage de la force, etc. Donc voilà, l'idée c'est de faire ce travail-là. Donc on a lancé il y a une dizaine d'années, et tous les deux ans, parce que pour l'instant on n'a pas les moyens de faire un rythme plus régulier, on réactualise cette base. Et donc là, en courant juin, on l'a réactualisée avec les années 2023 et 2024, puisque la dernière actualisation datait au moment de la mort de Naël à Nanterre et des révoltes urbaines que ça a provoqué ensuite. Donc voilà.
Et d'ailleurs, en 2024, donc d'après ce dernier recensement, il y avait 52 personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre dans le cadre d'une intervention. C'est un chiffre qui est en augmentation, c'est ça?
Alors, c'est en augmentation depuis 2020, en fait. En gros, de la période 2010-2020, il y avait en moyenne 20-25 décès liés à une intervention policière. Et depuis 2020, on a un pic, on a franchi un pic, une nouvelle étape, où ça a quasiment doublé, donc c'est une cinquantaine de morts par an. Et pour l'instant, on est à cet étage-là d'une cinquantaine de morts par an. Ouais.
Et alors, en particulier pour les refus d'obtempérer, vous avez dénombré 30 personnes tuées en 2023 et 2024. Et ce risque, ce type de drame risque d'augmenter avec justement l'annonce de Bruno Retailleau sur l'usage possible de la force dans ces cas-là. Comment est-ce que vous l'analysez, ce chiffre ?
Oui, parce qu'à un moment donné, sur les courses-poursuites, à partir du moment où des policiers ou des gendarmes vont repérer un véhicule suspect, alors bon, après, on peut discuter de leurs critères de qu'est-ce qui est suspect ou pas, mais bref, ils vont le véhicule va tenter de se soustraire au contrôle, ça va provoquer une course-poursuite, et comme il y avait eu, il y a plusieurs années, des accidents mortels, et y compris de policiers, dans le cadre de courses-poursuites avec des accidents routiers, du coup, ils ont demandé de calmer un peu là les choses, et puis surtout qu'il y a d'autres moyens de noter une plaque d'immatriculation, d'interpeller plus tard sans provoquer une course poursuite, et puis de faire courir un risque à la fois pour les suspects en question et à la fois pour les policiers, voire des gens autour. Il y a d'autres moyens d'interpeller les personnes. Mais bref. Et du coup là, le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, a fait une circulaire comme quoi des courses-poursuites doivent être engagées systématiquement désormais, quel que soit le délit. C'est une personne en excès de vitesse, etc. Parce que c'est souvent des délits souvent mineurs. Hein. C'est pas que des braqueurs ou des terroristes ultra dangereux internationaux qui sont pris en chasse.
Oui, c'est ce
voiture.
Que vous dites. C'est beaucoup de profils de détresse psychologique.
Alors ça, c'est d'autres affaires qui montent depuis quelques années. On constate qu'en fait, les policiers et les gendarmes interviennent de plus en plus en premier recours quand il y a une personne qui pète un plomb, qui commence à être dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou de menacer ses voisins. Et souvent, on va s'apercevoir que c'est des gens qui étaient malades psychiatriquement. Et avec, nous, c'est notre analyse, avec un peu l'abandon du service public de prise en charge de la santé mentale, le fait que du coup, on appelle, c'est les policiers qui arrivent en premier recours et qui ne sont pas formés pour faire face à des gens un peu en délire ou qui vont exhiber un couteau, vont hurler, etc. Et du coup, leur réflexe, ça va être de se protéger, de sortir une arme et de tenter de les neutraliser. Et souvent, ça passe par les blesser mortellement. Donc voilà, il y a de plus en plus de ces cas-là qui émergent. Et c'est une vraie question parce que pour l'instant, ce débat-là n'existe pas, quoi, dans le débat public.
Et alors, cette enquête, elle est disponible sur le site de Basta. Elle est en plusieurs volets. Il y a plusieurs articles qui sont disponibles. À l'heure actuelle, il y a combien de volets pour cette enquête ?
On a fait trois articles qui analysent les nouvelles données qu'on a compilées en 2023 et 2024. Mais sinon, si on remonte avec le système des mots-clés ou des recherches sur le site, on peut retrouver l'historique de tous les articles qu'on a publiés depuis la mise en ligne de cette base de données qui remonte à une dizaine d'années.
Alors, le fait notable, justement, avec cette enquête, qui date, tu le dis, depuis plusieurs années, c'est qu'elle fait référence maintenant même auprès de l'IGPN.
Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on a lancé la base de données, donc pour avoir des chiffres à peu près estimés de combien de personnes étaient tuées dans le cadre d'une intervention policière, donc il n'existait aucun chiffre. Et en 2018, l'IGPN a lancé une expérimentation pilote dans quelques départements pour commencer à voir ce qu'ils avaient, ce qu'ils récupéraient, eux, comme données. Et depuis 2-3 ans, ils sortent un rapport de plus en plus détaillé qui, en fait, reprennent nos critères et les mêmes types d'analyses. Alors, usage par arme à feu, mort par asphyxie ou mort en détention, etc. Et voilà, ils vont nous donner plus ou moins de contexte avec le point de vue de l'IGPN, qui dépend du ministère de l'Intérieur, donc ça ne va pas être très indépendant. Mais voilà, ils font quand même ce travail-là et du coup, on a quand même une source publique officielle qui dit, il y a eu, et qui confirme en gros nos chiffres, qui va dire, il y a une cinquantaine de morts cette année, etc.
Kira ?
Oui, je me posais la question, parmi ces critères, comment vous estimez le nombre de morts ? Après, je ne sais pas si c'est conséquent ou pas, ou même si ça arrive, mais j'imagine que oui. Dans les mobilisations policières, quand il va y avoir gros mouvements lors de manifestations, un peu des débordements, des mouvements de foule assez intenses qui potentiellement peuvent blesser des gens, voire peut-être potentiellement en tuer, qui du coup pourraient être liés du coup à l'activité policière. Si c'est par exemple, je sais pas, des enfin que ça soit des attaques policières lors de manifestations, mais c'est pas directement une violence policière, enfin c'est un peu indirect. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans vos rapports ou pas du tout, c'est mis de côté parce que ça rentre pas dans ce cadre-là. Enfin, je me posais la question. Bah,
si c'est une violence indirecte, par exemple, moi, ça me fait penser à cette dame à Marseille qui, pendant une manifestation du mouvement pour les retraites, par exemple, qui une grenade lacrymogène tirée par les CRS est rentrée dans son appartement et elle est morte asphyxiée. On va la compter parce que c'est Elle est indirectement c'est lié à une action policière, le fait qu'elle va décéder. Pareil, si quelqu'un reçoit des coups de matraque parce qu'il se fait tabasser pendant une manifestation et qu'il va décéder d'un malaise cardiaque dans les heures qui suivent, c'est lié à une action éclairée. Après, à l'autopsie, aux enquêtes, de dire quelle est la responsabilité, le niveau de responsabilité de la police, enfin, ou des agents qui ont porté les coups dans ce cadre-là. Mais c'est une intervention policière qui va être létale. Voilà. Et pareil, si quelqu'un est pris dans un autre contexte, pas forcément de... Donc, et puis après, vous avez les morts directes en manifestation. Enfin, le cas d'un Rémi Fraisse, par exemple, qui va clairement se recevoir une grenade explosif dans son sac et en mourir, c'est clairement lié au recours à la force de la police. Donc oui, c'est pris, les morts indirectes, entre guillemets, sont pris en compte.
Donc on le rappelle, une enquête à retrouver sur basta.media, c'est en accès libre, donc n'hésitez pas, c'est en accès même à prix libre. On revient tout de suite, on fait une nouvelle pause, restez avec nous, on revient juste après ce petit morceau de Amer Choutin. À tout de suite.
J'tends plus que j'tends pop, j'tends dormant. J'tends l'élite, j'tends riche, j'tends de l'escan. J'tends flic, j'tends pop, j'tends dormant.
D'écouter Choutin de Amer sur Radio Campus Paris.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Et à chaque épisode de Quatrième Murmure, on part en région à la découverte d'un média indépendant local. Et aujourd'hui, Sacha, donc, tu nous emmènes en Normandie.
Je me casse de Paris.
Je vais voyager.
Je fais le tour de France.
Il y aura toute la presse locale.
J'avais peut-être tout simplement envie de voir du pays.
Et oui, Pierre-Yves, et aujourd'hui, on accueille par téléphone Simon Gouin, fondateur et animateur du média Normand Grand Format. Salut Simon, est-ce que tu nous entends ?
Salut Sacha, oui je vous entends bien.
Donc toi Simon, tu as été avant de fonder Grand Format journaliste permanent à Basta de 2013 à 2020. Alors Simon, est-ce que tu peux nous présenter ton média Grand Format et peut-être commencer par nous dire c'est quoi la particularité d'être un média indépendant régional ?
Oui, ça fait plaisir de passer après l'équipe de Basta avec qui j'ai travaillé et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec eux, donc ça me fait vraiment très plaisir. Alors, Grand Format, c'est un petit média normand qu'on a créé il y a 6 ans maintenant, dans lequel on publie tous les mois un grand reportage sur des grands enjeux qui sont traités localement à partir d'histoires vraies. Et donc, nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment de prendre le temps d'avoir une approche assez documentaire, quelque part. On s'éloigne un peu du journalisme, mais de vraiment de parler du monde à l'échelle locale avec des articles longs qui donnent du sens, qui prennent du recul sur l'actualité et qui permettent aux gens qui nous lisent peut-être de mieux comprendre ce qui se passe en fait, actuellement.
Et vous êtes combien dans votre rédaction ?
On est 3. On est 2 journalistes et un développeur graphiste. Et puis autour de nous, on a tout un collectif de pigistes, de photographes, de dessinatrices aussi beaucoup qui travaillent à la pige sur les sujets.
D'accord. Et alors du coup, vous avez fait le choix de diffuser vos articles uniquement en ligne. Est-ce que pour un média régional, c'est pas compliqué de se faire d'être visible dans la région en passant uniquement par le web par rapport à peut-être d'autres médias régionaux qui sont encore beaucoup ancrés dans la presse papier?
Ouais, alors en fait actuellement ça rejoint ce qui était dit avec le portail des médias libres et cette réponse qui pour face au défi des algorithmes. En effet, les algorithmes des réseaux sociaux ne nous favorisent pas, et encore moins quand on est un journal régional, je dirais, parce qu'on a une force de frappe qui est beaucoup plus restreinte que les journaux nationaux indépendants. Donc, c'est vraiment très compliqué pour nous d'émerger et d'être visible dans un paysage médiatique qui est très bien installé. Chez nous, la PQR, la presse quotidienne régionale, comme Ouest France, par exemple, est énormément lue, y compris sur Internet. Donc, c'est vraiment un des principaux défis pour notre petite structure, réussir à se faire connaître, même 6 ans après, l'enjeu est de taille pour nous. Et puis, alors, on a quand même lancé, nous, un petit format papier. Mmh. Qui reprenait des articles publiés en ligne et qu'on a diffusés dans des médiathèques, notamment, et auprès de nos lecteurs. Ça, c'est aussi une petite solution pour parvenir aussi à toucher différemment des gens qui apprécient encore le papier. Mais c'est encore une fois un défi économique parce que le papier actuellement coûte de plus en plus cher et on n'est pas capable de produire un gros magazine, ce dont nos lecteurs auraient rêvé et on nous le demandait régulièrement. Mais voilà, économiquement, ça ne tient pas du tout pour le moment.
Ben, je rebondis, donc économiquement, oui, c'est vrai que la presse papier, ça coûte assez cher. Et vous avez fait le choix, donc vos articles sont totalement gratuits, sans pub. Le média fonctionne sans actionnaire et se finance par les dons de ses lecteurs et lectrices. Pourquoi avoir fait ce choix de modèle économique et est-ce que ce n'est pas trop dur à tenir, surtout en tant que média indépendant régional ?
Ben, en fait, dès le départ, évidemment, on voulait avoir une indépendance totale vis-à-vis d'éventuels annonceurs, si on avait eu de la publicité et puis des institutions aussi. Donc, on s'est créé en association avec cette idée de monter un collectif, comme beaucoup de médias, dont Basta, pour vraiment porter les choses ensemble à plusieurs. Et dans cette idée, bah, ouais, au départ, on a proposé un abonnement, mais c'était vraiment compliqué. Pendant 2 ans, notamment le renouvellement des abonnements à notre échelle, c'était pas facile. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on avait plutôt intérêt à ouvrir les publications, à proposer de faire des dons. Donc, ça a permis de compenser, d'arriver à des sommes équivalentes à celles des abonnements, à les dépasser. Malgré tout, aujourd'hui, les dons, ça représente un sixième de notre budget. Donc, le reste, c'est, on a des petites aides, une petite aide à la presse du ministère de la Culture pour les médias de proximité. Et puis, notre deuxième activité, qui rapporte le plus d'argent et qui fait vivre le journal, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc, on mène énormément d'ateliers en médiathèque, en école, dans les prisons. Et ça, c'est 50% de nos revenus et ça paie en partie nos salaires.
Oui, c'est intéressant de parler de modèle économique et notamment des activités annexes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, notamment indépendants, qui ont d'autres activités. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule, ces ateliers d'éducation aux médias ?
Oui, en fait, ces ateliers, parfois, on peut passer simplement une demi-journée dans un établissement scolaire, ou dans une médiathèque. Et puis parfois, on va revenir pendant 3 semaines, étalées sur 1 an, dans ce qu'on appelle des résidences de journalisme. Donc, avec des jeunes, souvent, principalement des jeunes, on va monter une édition spéciale de grand format. Par exemple, j'en ai fait une l'année dernière à Vire sur la question du racisme, avec 3 classes de lycéens. Et ensemble, on a créé une édition spéciale sur le racisme. Donc, il y a eu une vingtaine d'articles, de reportages, d'enquêtes réalisés par les jeunes qui se mettent dans la position d'apprentis journalistes et puis qui vont interroger les gens sur leur territoire. Donc, nous, notre marque de fabrique à grand format, c'est vraiment de faire du journalisme avec des gens qui ne sont pas journalistes et ensemble, peut-être, de se poser des questions sur qui possède les médias, où est-ce qu'on va chercher des sources fiables, comment on les croise, etc. Et puis, surtout, de s'intéresser à des territoires où il se passe plein de choses.
Et vous, votre ligne éditoriale, donc c'est de faire des longs reportages, de prendre le temps, de faire des récits qui parlent de gens et pas que du récit purement journalistique. Comment vous choisissez vos sujets? Comment vous choisissez vos angles, vos sujets le plus possible?
Oui, il y a beaucoup de critères qui rentrent dans ce choix. En tout cas, c'est toujours collectif parce que on croise les regards pour essayer de sentir ce qui va potentiellement le plus intéresser nos lecteurs. Donc, il y a cette question des histoires vraies, en effet, de la sensibilité, du témoignage, de partir vraiment d'une histoire qu'on va pouvoir raconter comme dans un livre, comme dans une revue papier magazine. Et donc, d'essayer d'avoir, par exemple, là, on fait un dossier sur l'accueil des migrants. En Normandie et la solidarité, on a énormément de témoignages très concrets qui rendent visible cette solidarité et qui parlent de cet élan en fait qui a pu avoir sur le territoire. Donc ça, c'est un des critères. Et après, il y a comme dans tout média aussi cette question un petit peu de l'exclusivité. Est-ce qu'on va parler d'un sujet qui n'est pas abordé ailleurs? Et si c'est le cas, on se dit tiens, nous, on va peut-être essayer de porter ce sujet sur le devant de la scène et puis de le médiatiser. Par exemple, dernièrement, on a été peut-être le premier média local à parler de la tuberculose bovine, une affaire qui concerne le monde paysan notamment dans notre région. Et il y avait déjà eu des articles dans d'autres médias, mais nous, on a pu poser ça dans une longue enquête et avec un partenariat avec Basta qui lui a donné de la visibilité avec des éléments nationaux qui est venu nourrir, je pense, le sujet est peut-être interpellé, on l'espère, les institutions locales. Mmh. Et puis il y a aussi une dimension géographique, parce qu'on essaie de toucher toute la Normandie, puisqu'on est un journal local, donc notre territoire, c'est la Normandie. Donc c'est vraiment tout ça qui est mis en jeu, et puis à la fois, c'est très subjectif aussi, le choix des sujets, c'est aussi en fonction de nos sensibilités, nos points de vue, nos intérêts pour le moment, les échos nationaux, internationaux qu'on peut trouver localement.
Et super. Et tout à l'heure, on parlait de collaboration entre médias. Là, tu viens de parler d'une collaboration avec Basta, qui est ici même en plateau. Est-ce que Grand Format fait partie du portail des médias libres? Oui.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que à l'avenir aussi pour les médias régionaux, est-ce que l'avenir est à la collaboration médiatique aussi?
Oui, moi j'en suis convaincu depuis longtemps. En fait, on n'a pas le choix que de collaborer, de trouver des formes de mutualisation très concrètes parfois. On essaie d'y travailler localement, notamment en Normandie avec un petit réseau qu'on a, qu'on a tenté de créer entre médias de proximité. Et puis, nationalement, par exemple, on est en train de mener deux enquêtes pour la revue dessinée qui vont être traduites en BD. Voilà, nous, on est ancré territorialement. Ça nous permet de proposer peut-être des sujets aussi pour la presse nationale indépendante et de le porter, qu'il soit porté différemment sous d'autres formats. Et je suis convaincu, oui, face aux difficultés économiques qu'on rencontre tous et à la précarité de nos structures, que cette mutualisation, ces collaborations sont vraiment essentielles.
Ok, merci beaucoup Simon. Peut-être en plateau, Yves, tu peux nous, Yvan, pardon, tu peux nous raconter un peu comment vous collaborez vous avec les médias régionaux.
Bah, déjà dire salut à Simon, parce que c'est vrai que l'existence des médias indépendants et notamment régionaux, parce que c'est encore plus compliqué, parce que l'audience est de fait plus réduite. Mais c'est super important parce qu'il y a souvent peu de contre-pouvoirs en région. La presse locale est quand même, la presse QR est quand même, à part quelques exceptions, d'assez pas de très bonne qualité et puis souvent complètement soumise aux grands ou petits intérêts économiques ou politiques locaux. Et le fait que depuis, pareil, une dizaine d'années, des médias indépendants régionaux comme Grand Format en Normandie, comme Splan en Bretagne, comme les différents médias cités dans les villes où ils se sont implantés, ou les rues 89, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, etc. C'est super important d'un point de vue de la démocratie locale, de l'information locale, parce que ça reste de l'information de proximité et tout ça. Et oui, il y a de plus en plus de... Enfin, pour aller dans le sens de ce que disait Simon, il y a de plus en plus de collaborations qui se mettent en place entre médias nationaux, indépendants et médias régionaux. Là, il y a une série d'enquêtes sur l'extrême droite qui sont financées notamment par le Fonds pour la presse libre qui vont être publiées entre septembre et début 2026. Donc voilà, non, il y a de plus en plus de dialogues et c'est très complémentaire, oui.
Eh bien, merci Sacha, merci Simon du média indépendant normand Grand Format. C'est déjà la fin de cet épisode. C'était le premier de Quatrième Murmure, l'émission qui donne la voix à la presse indépendante. Merci pour votre écoute. Merci à nos invités du média Basta, Emma Bougerolles et Yvan Duroy. Merci à Simon Gouin aussi qui était en Normandie pour le média Grand Format. Merci à Chiara et à Sacha en plateau. Et enfin, merci à toi Mélie qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités. D'ici là, lisez la presse indépendante, soutenez-la, parce que vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez agir pour la démocratie.